Midrash Tanhuma, en fait. Mais il a changé le Midrash. Je pense qu'il y a dans le Midrash deux versions. Et, parce qu'il y a une version qui dit simplement que, qui n'explique pas pourquoi. Simplement, il n'a plus de Ruach HaKodesh, c'est tout. Sans que, voilà, il y a quelque chose qui, sans qu'on on dise en quoi exactement ils ne sont pas, ils peuvent pas recevoir de bracha. Pas clairement dit, si vous voulez. C'est pas explicité le, comment est-ce que, comment ils sont comment, ou pourquoi est-ce qu'ils sont disqualifiés. Le Tanhuma lui-même, il a soulevé le problème. Il dit, mais, comment est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire, Miele? Il les a pas reconnus, bien sûr. Il les a reconnus. Et donc, le Tanhuma, il donne une réponse plus, enfin, différente, en quelque sorte. Rashi a bougé un peu le Midrash. Dans la version de, dans cette version-là, Yaakov, il expérimente un blanc, quoi. Il peut pas, il peut plus, il veut bénir, et il voit que c'est pas possible. Alors il se demande, mais quelle peut bien être la nature de ces enfants? Bien sûr, il y a ces mauvais rois qui sont là. Mais on a l'impression que, qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est-à-dire que, c'est comme si on disait que Yaakov est pas, il n'est pas conscient exactement du pourquoi ça marche pas. Il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il a pas, c'est pas explicite en quelque sorte. C'est pas parce que les mauvais rois sont là. C'est pas explicite, c'est probablement pour ça, mais lui, il le sent pas directement. Donc, il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, Yosef lui répond, Banaihem, ce sont mes enfants, ce sont mes fils, Asher Nathan Li Elohim Bazé. Mes fils, qu'Elohim m'a donné ici, dans la situation qui est la mienne en Égypte. Rashi dit basé en cela, Eralo Shtar Erusin Ushtar Ktuva. Il lui a montré un document sur les Kiddushin et un document sur la Ktuva, c'est-à-dire sur les Nisuin. Il lui a montré les actes de mariage, si vous voulez. Ubikesh Yosef Rachamim Aladavar, ve, à ce moment-là, Nacha Alav Ruach HaKodesh. Yosef, visiblement, il a prié. Ubikesh Rachamim Aladavar. On ne sait pas, il a demandé, il a fait référence à la tendresse divine. Voilà, j'ai fait ces enfants-là, ce sont des enfants que j'ai eus en respectant toutes les règles de la Torah quant au mariage. le Netziv dit, là, il s'est arrêté sur le fait que Yosef dit Banai Hem. Alors il dit Yosef lo ratza le akiram bishmam. Yosef n'a pas voulu mentionner leur nom. Pourquoi? Parce que, ça c'est déjà un chat différent de ce qu'on a vu avant, parce que en fait, Yosef était vraiment surpris, un peu égaré par le fait que Yaakov a cité Ephraim avant Menaché. Je vous ai dit, pour le Meshech Chochma, et comme ça on a l'impression que bon, Yaakov le fait consciemment, et eux, le Meshech Chochma, il ne dit pas pourquoi Yosef, en fait, ne réagit pas vraiment. Ou bien, justement, il comprend que, mais bon, il y aura un problème, on va voir quand il va réagir vraiment. Et donc, Yosef, il arrivait difficilement à parler à ce sujet-là. Il s'est dit, mais peut-être qu'il y a une autre kavana, peut-être mon père, il a une intention différente. Et donc, il voulait pas dire le contraire de son père. Lui, il voulait pas dire Ephraim et Menaché. Mais il voulait pas non plus dire le contraire, Menaché et Ephraim, qui serait le contraire de son père. Donc il a dit Banaï, c'est mes enfants. Et donc, en fait, il a fait référence, en quelque sorte, il a fait référence à la tendresse divine, en quelque sorte. Et il a dit, ce qu'il a dit pour apaiser son père, il lui a dit Elohim natan lo beze zera bruchi Hashem. Il dit à son père, Hashem m'a donné des enfants, descendance, des gens qui sont bénis par Hashem. Pour moi, c'est Elohim qui me les a donnés. En d'autres termes, lui, à Megdavar, il dit, il dit, velo que chari l'adim, le teva adam. Comme si Yosef disait, ces enfants-là, ils ne sont pas le produit simplement de mon mariage avec une femme. C'est littéralement, il le voit vraiment comme un cadeau d'Hachem, en fait. Est-ce qu'il pense que normalement il n'aurait pas dû avoir d'enfants en Égypte ou peut-être pas du tout avoir d'enfants parce que qui dit qu'il pouvait se marier avec qui que ce soit, il était esclave au fond d'un trou perdu dans une prison. Peut-être là il a considéré que ses enfants une bénédiction d'Hachem directement. Et ça, semble-t-il, sera donc suffisamment apaisé son père, pour que, du coup, la suite du verset, c'est, alors son père lui dit, Vayomer kachemna elai vabarchem. Rapproche-les de moi, et je vais les bénir. Donc, voilà, et tout à coup, Yaakov sent qu'il peut bénir. C'est-à-dire que cet inconfort et cette absence de la présence divine a disparu. Il est rassuré complètement. Donc ça veut dire que cette référence que Yosef a donnée quant à ce que sont ses enfants, en quoi est-ce que ça enlève le fait qu'il y a des descendants qui sont pourris? Si on considère que les descendants pourris, ça empêche de donner la bracha, en quoi la réponse de Yosef est-elle une réponse apaisante, en fait? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi tout à coup, Karemna? semble-t-il, il a compris que si Elohim lui a fait un cadeau, alors il ne peut pas être empoisonné. Même si effectivement c'est difficile à comprendre. Et voilà, on est obligé d'expliquer ça comme ça, parce que ça veut dire, maintenant il va dire, bon, tu peux me les amener maintenant. Je suis apaisé. Faut dire probablement comme ça, que si c'est Elohim qui lui a donné, alors ça doit être bon. Et donc il va les bénir. Non, ça c'est pas terminé. Bene Israël, Tavdou Mizoké. Loïchal Lirot. De nouveau. Lui aussi, il devient un peu aveugle, parce que par vieillesse, il voit pas bien. Et Yosef, Vayageshotam Elav. Donc il les amène vers son père, qui les embrasse, qui leur donne. Meishak, ça veut dire qu'il leur donne des baisers et il les prend dans ses bras. Meishabek. Et maintenant, il se tourne vers Yosef et il lui dit, je n'espérais pas te rencontrer, te voir. Je n'espérais plus te voir. Et maintenant, voilà que Elohim me montre même tes enfants de descendance. À ce moment-là, Yosef a retiré les enfants qui étaient entre les genoux de son père, et ils se sont tous prosternés devant Hachem. Pourquoi? Alors, Rachid dit, pourquoi est-ce qu'il les a retirés d'entre les genoux de son père? Parce que son père, quand il les a pris, il a mis Ephraim de son côté droit. Et Yosef, il n'était pas content, alors il les a retirés pour pouvoir les faire entrer et mettre Menaché sur le face de son père. Alors, fils, ils se sont prosternés, pas devant son père, mais détournés, dit Rashi. Et donc, Yosef prend ses deux fils, il prend Ephraim à sa droite, mais c'est à la droite de Yosef, c'est la gauche de Yaakov. Il arrive, on va mettre Ephraim sous la main gauche de Yaakov. Yosef prend Menaché à sa gauche pour le mettre à la droite de Yaakov. Donc il veut les mettre comme lui pense. C'est comme ça qu'il s'avance. Et donc, bon, alors... Yaakov le laisse faire, mais Vaishlach Israël est Yemino, mais il a tendu la main droite et l'a posée sur la tête d'Ephraïm, bien qu'il soit le plus jeune, et la main gauche, il l'a posée sur la tête de Menaché. Donc il a croisé les bras, parce que Menaché, en vérité, c'était le Bechor. Donc il avait, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il a visiblement, il savait que Menaché était le Bechor, mais malgré ça, il n'a pas posé sa main droite sur Menaché. Bien. Et il est béni. Il les a bénis. Vayomer na Elohim, asher italchu, avotai lefanav, Avraham v'Yitzhak, ha Elohim, aroyoti, meodi ad hayom hazeh, que Elohim, devant lequel mes ancêtres ont marché, Abraham et Yitzhak, mes ancêtres, à Elohim qui m'a guidé depuis toujours jusqu'à aujourd'hui, et à Malach Agoeloti, Yivarech Tanarim, et donc Vikare Ben, Shmi, Beshem Avotai, Abraham Yitzhak Yaakov, il voulait revenir à Baretz. Alors Yosef voit que son père, il croise les mains et ça lui a pas plu à Yosef. Alors il a pris les mains de son père pour la main droite la poser sur la tête de Menaché. Et il a dit à son père, Lochen Avi, Zéabchor, pose ta main droite sur la tête de Menaché, qui est le Bechor. Vaimaen Aviv, son père a refusé. Il a dit, Yadati Beni, Yadati. Je sais bien, mon fils, je sais. Damoui Elam, Menaché aussi va devenir un peuple. Damoui Igdal, il va aussi grandir. Oulam, toutefois, Achiva Katon, son petit frère, Yigdal Mimenu, sera plus grand que lui. Zaro Yem Loagoïd. Et la descendance d'Ephraïm sera Melo Agoïm. Rashi dit, Kol Aram Yitmale Betzed Shamo Ushmo Yamid Chama Begivon. Rashi dit, le monde entier, en fait, va se remplir, en quelque sorte, de la gloire de, vont entendre que le descendant d'Ephraïm, c'est-à-dire Yoshua, qui est le descendant d'Ephraïm, qui va arrêter le soleil à Givon et la lune de Mekayalon, vous savez, donc. Donc, ça, là, et les goïms vont en être complètement impressionnés. Donc, il les a bénis, ce jour-là, et il a annoncé, Becha, Yevarech Israël, les morts. C'est en toi, par toi, que Israël sera béni, puisqu'on va dire, Yisimcha Elohim, etc., la bracha qu'on a l'habitude de dire, et on dit toujours, Ke'Ephraïm ou Ke'Menaché. Comme Ephraïm et comme Menaché. Et donc, le pasouk remet il remet l'accent, Vayasem et Ephraïm lifne Menaché. Et donc, il a mis dans la bracha, dans le texte de la bracha, et c'est ce que nous faisons tout le temps, nous bénissons nos enfants. On bénit les enfants, Ephraïm d'abord, Menaché ensuite. Sur ces brachot, Rashi dit, Veolam Achiva Katon Igdal Memeno. Toutefois, son petit frère sera plus grand que lui. Shatid Yoshua Latset Mimeno. Parce que, il aura un descendant qui sera Yoshua. Chez Yanchil et Aaretz, qui lui va faire hériter la terre au clan d'Israël. Donc, c'est lui qui va la conquérir. Et ensuite la partager. Vilamed Torah l'Israël. Et aussi que Yoshua enseigne la Torah à Israël. Où est-ce qu'on voit qu'il enseigne? En Pirkei Avot. Moshe kibel Torah misinai umsera l'Yoshua. Yoshua l'Israël. Donc, Moshe a transmis à Yoshua qui a enseigné par la suite. Celui qui va enseigner la Torah de Moshe Rabbeinu au clan d'Israël, priori, la Torah se bat le père. Par ailleurs, on dit que c'est les Kohanim qui vont enseigner, mais là, clairement, on dit dans Petit Avot que la transmission, elle s'est faite, Moshe, Yoshua, etc. Alors, Volbe, il explique que Yaakov Avinu a vu, effectivement, tout ce qui allait descendre d'Ephraïm et de Menaché jusqu'à la fin des temps. C'est de cette manière, en tenant compte de tout cela, qu'il les a bénis. A priori, on sait très bien que Yosef, on comprend bien que Yosef savait bien que si Yaakov faisait les choses d'une certaine manière, c'est que c'est pour ça qu'elle devait être. Et donc, pourquoi il a voulu changer les choses? Pourquoi il a pris les mains de son père pour les déplacer? D'abord, en fait, on a déjà vu que quand Yaakov les a rapprochés, il les avait déjà rapprochés d'une manière qui plaisait pas à Yosef. Non, Yosef, il s'est permis de les ressortir, puis les faire rentrer comme lui le voulait. Après, son père, il croise les bras, d'accord? Et maintenant, il lui dit, non, tu te trompes. Et tu vois bien qu'il fait pas ça au hasard. C'est une suite logique. Et là, chez Yosef Amar le Yaakov, Atarotzel Varechet Ephraim Yoter, Ipne Shiatsan Menu Yoshua. Yosef a dit à son père, tu veux donner une bracha, plus de bracha en quelque sorte, la bracha de la main droite, à Ephraim, parce que Yoshua va être son descendant. Tevarech et Menaché apprend chez Yoshua Yetzemimenu. Bénis plutôt Menaché, qui est le Bechor, de telle sorte que Yoshua soit le descendant de Menaché. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yosef pense que, on pourrait très bien dire, le Yoshua, qui est le descendant et qui est l'élève de Moshe Rabbeinu, il aurait très bien été possible qu'un descendant de Menaché devienne l'élève privilégié, l'élève le plus important de Moshe Rabbeinu. Ça aurait été lui, le Yoshua, en fait. C'est pas obligatoirement que Yosef pensait que Yoshua, au lieu de descendre d'eux, il descend d'eux. Aval Haemet, Chezé Loshayach. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Yosef voulait? Il voulait que la bracha fabrique Yoshua, fabrique l'équivalent de Yoshua. C'est-à-dire qu'on va donner une bracha à quelqu'un pour qu'il devienne ceci, mais qu'il n'est pas. Alors, Rav Olmé veut dire ici que ça n'existe pas. Ifne she bracha enena yochola leshanot et ativim. Une bracha, ça ne peut pas changer la nature des choses. Im Yoshua tzarech latzet me'Ephraim, lo shayach leshanot et zeh. Si Yoshua doit être le descendant d'Ephraïm, on peut pas changer cela. On peut pas donner une bracha à Menaché qui fasse que Yoshua soit son descendant à lui. Parce que le principe de la bracha, c'est que ce qu'on a trouvé chez quelqu'un, le Rav Olmé dit en bekoach, en potentiel, la bracha va le faire advenir elle va le faire actualiser. Je dirais, ce qu'on a trouvé en très petit chez quelqu'un, la bracha peut la bracha, c'est, d'après Ramchem de Bologine, c'est une multiplication. Bon. Alors, la multiplication, ben, il suffit de multiplier par suffisamment grand pour avoir quelque chose. Lui, il a l'air de dire que la bracha, elle fait passer le potentiel à l'actualiser. Ça, je ne sais pas. Sauf à dire que le potentiel, c'est déjà quelque chose de la, qu'il n'y a pas une différence de réalité entre le potentiel et l'actuel. Je ne sais pas. Enfin, ce que moi, j'ai appris plutôt que c'était une amplification. Et pas un changement d'état, en quelque sorte. On peut souhaiter que la personne arrive à actualiser, mais ça doit être un mouvement d'elle-même, en fait. La bracha elle-même, bon, je vous dis, le Rav Omer dit autrement. Et il dit, on peut pas faire ça, on peut pas l'obtenir. Sauf que il peut y avoir des obstacles à cette actualisation voulue par la bracha. On appelle ça la sitracha, l'autre côté en fait. Chez Yoshua, il se pourrait que Yoshua n'advienne jamais. Al ze shayechet bracha shelo yehu ikuvim. Là-dessus, il y a l'efficacité de la bracha, c'est qu'il n'y ait pas d'obstacle. Il disait klal gadol chol abrachot. Et ça, c'est une règle générale dans les brachot. C'est pour ça que je vous rapporte ça, c'est parce que il dit ayom, aujourd'hui, kulam mevakshim brachot. Tout le monde demande des brachot et on demande des brachot à tout le monde. Et à Adam, shemimenu mevakshim, shofer bichotav. Quand on demande à quelqu'un des brachot, il donne des brachot. Il déverse des brachot. Toutefois, à Emeti, c'est que dès la tête bracha, la vérité c'est que pour donner une bracha, ça veut dire l'akir et à Adam. Il faut connaître celui auquel on donne une bracha. La date, ba'em kochotav. Il faut connaître ses forces. Rak az shayach levarcho, shakochot sheyesh lo bekoach, yetsu la poal velo itakvu. C'est. Et donc, pour Ravolbe, il faut savoir que la personne potentiellement est là, c'est pourquoi on lui donne une bracha. Mais si elle l'a pas potentiellement, on ne peut pas avec une bracha changer les choses. J'ai déjà rapporté souvent cet enseignement du Gaon de Vilna. Le Gaon explique que il y a des choses qui s'appellent mazal ma'adim, par exemple. La Gemara, elle utilise cette expression. Mazal ma'adim, ça veut dire que chacun naît sous une, si vous voulez, avec certaines qualités et défauts. Il y a des gens qui naissent avec un ensemble qu'on va appeler mazal ma'adim, d'autres un mazal d'une autre couleur, etc. On prend l'exemple rouge parce que c'est plus facile à décrire. Quand quelqu'un naît dans ce mazal-là, c'est pas qu'il est déterminé et qu'il y a des choses il pourra pas bien faire ou il pourra que mal faire, etc. Dans chaque mazal, il y a tout l'éventail, tout le spectre de toutes les utilisations des qualités qui forment ce qu'on appelle ce mazal-là. Mais on ne peut pas en sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un est dans ce mazal-là, alors il peut, ce mazal, le rouge, ça a à voir avec le sang, disons. Alors, c'est un métier qui manipule du sang, si on peut parler comme ça. Une des occupations qui manipulent du sang. Alors la personne, elle peut être, depuis l'assassin, en passant par le boucher, le chirurgien, le moël. D'accord? Il y a tout l'éventail des mitzvot qu'on peut faire avec ça, le shochet des korbanot ou des choses comme ça. Mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire parce que, si vous voulez, c'est comme si on disait que quelqu'un qui est né avec une certaine, disons, je ne veux pas parler d'intelligence, mais au contraire, peut-être de caractéristiques physiques, c'est-à-dire il a certaines caractéristiques physiques, alors il y a des choses qu'il va pouvoir faire, d'autres qu'il ne pourra pas vraiment faire. Mais ça ne veut pas dire, du point de vue moral, tout lui est possible. Il peut devenir parfait, comme il peut devenir totalement imparfait, vraiment un rachat. Un rachat est sadique avec les données qui sont les siennes. C'est important de savoir que, voilà, que la avoda, le service qu'on doit faire pour Hachem, c'est le service qu'on doit faire là où on est. On pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Non, ta avoda, elle est là où tu es. Si Hachem t'a mis là, eh bien, tu dois trouver ce que tu as à faire, ce que tu peux faire de parfait à cet endroit-là. Alors, il y a des situations dans lesquelles on n'a pas le droit de rester, par exemple. On n'a pas le droit d'être dans une ville dans laquelle il n'y a pas le minimum pour pouvoir respecter la Torah. Dans ce cas-là, tu dois partir. Mais autrement, il faut se demander, est-ce que tu vas là-bas, mais pourquoi tu vas là-bas? C'est ici que tu peux faire ton travail. Il rapporte qu'il avait un chaver qui devait aller à un endroit où il devait quitter la yeshiva et aller à un endroit où on ne le connaissait pas. Et il était très, très triste. Il ne savait pas exactement. Sauf que quand il est allé prendre congé de, c'était Rav Simcha Zissel Leibowitz, qui était le mashgiach de l'époque, là-bas, en Biélorussie, non. Le Rav lui a dit, de quoi as-tu peur? Jirak tiftach et picha, ou tedaber, miadikarvucha. Tu verras. Dès que tu auras ouvert la bouche, tu vas commencer à parler, immédiatement les gens te rapprocheront, c'est-à-dire, voilà, ils vont t'aider. Et il m'a dit, ce chaver, que les choses, ces paroles que le Rav lui a dites, l'ont permis de se tenir debout, littéralement. Parce que c'était exactement comme ça que ça s'est passé. Les gens ont compris dans ce qu'il a commencé à parler, ont compris qui il était, et ils lui ont permis de devenir ce qu'il pouvait être, effectivement. Voilà, ça c'est ce que Yaakov a dit aux enfants de Yosef. Ceci étant, on va maintenant regarder un peu plus loin. Juste après, Vaikra Yaakov el Banav, dans la lecture de, c'est au début du chapitre 49, la quatrième lecture. Dans le quatrième monté. Vaikra Yaakov el Banav. Maintenant, il a appelé tous ses fils. Et il leur a dit, He asfu de la guide à l'achem, et asher yikra etchem b'achrit hayamim. Rassemblez-vous. Bon, c'est-à-dire, voilà. Il les a invités à se rassembler auprès de lui. Et je vais vous dire ce qu'il va advenir à la fin des temps. C'est étonnant, il annonce qu'il va leur donner ce qu'on appelle le ketz, c'est-à-dire il va leur dire combien de temps le monde va durer jusqu'à ce qu'il arrive à son terme, c'est-à-dire il atteigne le but pour lequel il a été créé. Rashi dit, Bikesh Yaakov le galot et haketz. Yaakov a voulu dévoiler le terme de l'histoire. Venistalka mimenu shchina. Et de nouveau, comme ça a été le cas quand il voulait bénir les enfants de Yosef, tout à coup la shchina s'en est allée de nouveau. Vitril lomar dvaribachere. Et du coup, il a commencé à dire autre chose. Donc, on voit ici qu'a priori, Yaakov Avinu connaissait le ketz. Il savait combien de temps ça allait durer. Et on a l'impression que c'est pas ça qu'il a oublié. Rashi ne dit pas qu'il savait plus comment était le ketz. Quand était le ketz. Il dit, je vais vous donner une date. C'est pas, j'ai oublié la date. Non, pas du tout. La date, il la connaît. Mais il sent qu'il est plus inspiré. C'est-à-dire, il n'est pas inspiré, donc il a compris qu'il n'avait pas le droit de le dévoiler. C'est comme si la Shrina disait, comme on dit, pas en mon nom, quoi. Moi, je ne serai pas complice de ce dévoilement. C'est un peu compliqué, cette histoire, parce qu'on a l'impression que ce que va maintenant dire Yaakov, c'est hors présence de la Shrina. La Shrina s'en est allée. On ne dit pas qu'elle est revenue parce qu'il a parlé autre chose. Le Netziv veut dire que en réalité, tous ses enfants étaient déjà là autour de lui. Et le roi Hakodesh, il leur a dit, rassemblez-vous. C'est-à-dire, c'est comme ça que ça doit être. Et c'est pour ça que le pasouk dit, Vayikra Yaakov. Shekara le kulam, le shem, Rouven, le Shimon, etc. C'est-à-dire le kavod ve'ahava le kulam. C'est-à-dire Vaikra, à chaque enfant il s'est adressé, il a dit à chacun de venir. Banav, c'est-à-dire vraiment ceux qui sont ses enfants, et à eux il a dit rassemblez-vous. C'est pas un rassemblement général. C'est un rassemblement qui ne concerne que certaines personnes. Et pourquoi? Vous voulez qu'ils soient tous là pour entendre ce qu'il allait dire à chacun. Et dit qui a bracha mo'el et yoter. La bracha, elle est plus efficace quand celui qui reçoit la bénédiction est vraiment devant lui. On peut adresser une bracha à quelqu'un. qu'on a l'habitude, quand on envoie un message à quelqu'un, de lui donner une bracha. Ça marche. Mais c'est plus efficace quand la personne est vraiment là. Alors, Agid Alachem, je vais vous raconter. Rashi dit, au nom du Midrash, donc, Bikesh Legalot Taketz. Rashi, il a fait très attention de mettre cette dracha qui dit Bikesh Legalot sur le verset Agid Alachem. Je vais vous raconter. Quoi? Le Ketz. C'est pas sûr, il a pas commenté et Asher, Ikra et Trem Bachit Ayamim. Parce qu'on aurait pu dire, c'est ça le Ketz. Agid Alachem. Je vais vous raconter. Rashi commente Agid Alachem comme si faisons abstraction de ce qui est dit après. Rashi sur les deux mots Agid Alachem, il dit qu'il voulait leur raconter le Ketz. Alors que nous, on aurait tendance à lire d'où est-ce qu'on sait qu'il voulait le raconter le Ketz, parce que Tachaïkra est Tremberachitayamim, ce qui va vous arriver à la fin des temps. Or, c'est pas ça. Achitayamim, ça veut dire la fin des temps, la fin des jours. Le Netziv dit qu'Achitayamim, c'est pas la fin c'est les temps messianiques. Le temps messianique, c'est pas la fin du jour. Bon, il apporte des preuves. Donc, on peut pas dire que Yaakov voulait leur dire quand le Mashiach viendrait. Je sais pas ce qu'il veut. Mais de Agid Alachem, de là, on peut dire que il a l'air de leur dire un secret. Et la Kavana, c'est qu'elle allait leur dire quand serait la fin des temps, que la kavana de un autre sens de Achrit Hayamim, ça porte aussi sur la fin des temps, la fin du monde, Ve'ainu Yemot HaMashiach. Donc ça, c'est la fin du monde, mais c'est aussi ça va nous dire aussi ce qui va se passer durant la période du temps messianique. Donc, il leur dit, rassemblez-vous, fils de Yaakov, et écoutez Israël, votre père. Alors, ici, écoutez, Shimou, ça veut dire, dit-il, acceptez. Je suis votre père et acceptez-le à ce titre-là. Acceptez ce que je vais vous dire. D'une part parce que je suis Israël, c'est-à-dire je parle de Ruach HaKodesh, je suis à la veille de ma mort. Et deuxièmement, je suis votre père. Donc c'est encore une raison supplémentaire de m'écouter. Pourquoi il va leur dire ça? Parce que vous savez ce qu'il va leur dire. c'est pas évident qu'ils vont accepter ce qu'il va leur dire. Les trois premiers, ils vont en prendre plein la figure. Alors il commence. Reuven, Bohori ata. Reuven, tu es mon premier-né. Qu'est-ce que ça veut dire, Bohori ata? Parce que tu es mon premier-né, donc, et par conséquent, Kohi, enfin pas par conséquent, mais en quoi est-ce que qu'est-ce que ça veut dire premier-né? Tu es Kohi. Le Réchit Oni. Tu es toute ma force. C'est comme ça que j'ai commencé à, c'est la première fois que j'ai produit quelque chose. Un enfant. Réchit Oni. Tu es ma première goutte de semence, littéralement. C'est comme si il y a tout là, tout moi était en toi. Yeter 7, Yeter, tu aurais dû avoir plus d'élévation. Raoui haïta dirashi liot yeter alachecha. Tu aurais dû être plus que tes frères, mais que Una. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que la Keuna est dite Se'et élevé. Rashi dit parce que il y a ce qu'on appelle Nesiat Kapaim, c'est-à-dire quand on fait Birkat Kohanim, on met les mains au-dessus. Donc cette élévation, c'est l'élévation des mains dans Birkat Kohanim. V'yeter Az, tu as plus d'impudence de cette force dont on a parlé à Hanouka. Le Malchut, dans la royauté. C'est lié à la royauté. Tu aurais dû être ça. Tu aurais dû être Kohen Gadol. Tu aurais dû être roi. Ou mi garam le chalafsid kolele. Et qu'est-ce qui a causé chez toi que tu perdes tout ça? Tu l'as perdu. Tu l'as déjà expérimenté. On est à la fin de la vie de Yaakov, il y a déjà eu, on sait déjà que c'est Yehuda le roi. Que s'il a été contesté, c'est par Yosef, mais pas par Reuven. Pourquoi? Pachas Kamaim. Rachidi a Pachas ve Abeala, Asher Miyarta, Learot Kaasra, Kamaim Alalo, Amemaharim, Nimrutzatam. C'est-à-dire, la panique, en fait, et aussi la rapidité, l'impétuosité avec laquelle tu t'es dépêché de manifester ta colère, comme ces eaux-là qui vont de plus en plus vite, dans un torrent qui... Sa colère. J'étais en colère parce que je me suis installé... Je suis la servante de Rachel après la mort de Rachel, plutôt que de m'installer chez ta mère. Ta colère était telle que, immédiatement, tu l'as exprimée. L'écart. Cette raison, al totar. Pour cette raison, al tarbe litol, kola yeterot alalu. N'essaye pas de prendre tous ces en plus là. Ça n'essaye pas d'être Kohen Gadol ou roi. Chez Ayu Reuil, le car, ces choses là qui normalement auraient dû être chez toi. Alors Rachidi, qu'est-ce que c'est ce paraz, cette impétuosité, cette colère dedans? Rachidi Kalita Ishkeve Avicha Azrilalta. Oto Shem chez Allah al Yitzri, il y a Shchina. Shayadarka liot Ola al Yitzri. Quelque part, j'avais une présence divine qui était là toujours presque au-dessus de mon lit, quoi. Et donc là, c'est bon, Rashi explique que grammaticalement, dit en vérité, on explique pourquoi ça s'appelle Yitzhui, bon, on va pas entrer maintenant là-dedans, parce que c'est un peu trop tard. Donc, voilà, tu t'es mêlé en quelque sorte de cette histoire, tu t'es occupé de ma couche, en fait, où j'allais choisir d'habiter, en quelque sorte, avec quelle femme j'habiterai en façon continue. C'est pas ton problème, c'était pas du tout à propos. Tu aurais pas dû te mettre en colère, tu aurais peut-être pu en parler, tu aurais pu demander le pourquoi, peut-être même peut-être que le pourquoi était en trop. Dans ce cas-là, c'est mon intimité, que de quoi tu te mêles. Bien sûr que c'était pour le cabot de sa mère, mais ça n'excuse pas ce qu'il a fait. Donc, cette attitude-là, qui est donc l'expression d'une qualité ou d'un défaut de Reuven, qui se sent responsable et qui s'imagine qu'il doit se mêler de questions qui, en fait, ne le concernent pas. Au nom d'une certaine responsabilité, c'est pas n'importe quoi, mais c'est faux, mais c'est dangereux. Donc Yaakov lui dit non, n'essaye pas, ne t'essaye pas ni à la Kehuna ni à la Malchut, c'est pas pour toi. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne semaine. Et donc, le shiur de la semaine prochaine.
Bonne semaine.